Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonsresources.gouv.fr/collectivité.
Good morning business, le grand entretien.
8h18 sur BFM Business et RMC Découverte. On est d'autant plus ravis de vous recevoir aujourd'hui, Philippe Vechter. Bonjour, que ce monde de l'économie, Christophe le disait à l'instant, va tellement vite entre le G7, les prix de l'énergie, le chômage au plus bas. On a besoin d'éclairage ce matin avec vous. Vous êtes chef économiste chez Ostrom Asset Management. Et ma première question, en fait, elle va porter sur ce G7. Comment vous voyez ces tensions qui s'amorcent, ces difficultés à se mettre d'accord entre, d'un côté, la Chine et puis de l'autre, tous les membres du G7 qui cherchent une position. Alors, on ostracise la Chine, on conserve des liens, mais on coupe le cordon. Comment vous voyez cette situation ?
C'est toute la difficulté du moment. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a, notamment sur l'initiative américaine, une volonté de couper, d'éviter les transferts de technologies vers la Chine. Ça, c'est un point qui avait été initié par Donald Trump et qui est accentué par Joe Biden. Donc ça, c'est un point qui est acquis, si je puis dire.
C'est le fondement de la stratégie américaine.
C'est un fondement marqué parce que la Chine était, sur le plan économique, sur le plan politique, en concurrence avec les États-Unis et donc chacun essaye de se différencier. Une fois qu'on a dit ça, les choses sont malgré tout un petit peu plus complexes parce que aussi bien les Américains que les Européens importent beaucoup de Chine. Et donc, on reste très dépendant des produits qui viennent de Chine. C'est toute la difficulté de la situation actuelle. On veut ostraciser la Chine pour éviter qu'elle ne prenne un poids excessif par rapport aux pays développés, mais c'était devenu l'atelier du monde, et donc on a besoin de leur production d'ordinateurs, de téléphones ou tout ce qu'on veut. Et donc c'est toute la difficulté de cette séparation, cette polarisation de l'économie dans laquelle on s'inscrit maintenant.
Est-ce que, Philippe Vechter, on a longtemps dit que cette séparation du monde en deux blocs, ce nouveau G2, allait avoir des conséquences sur l'économie mondiale et sur la croissance. Or, on a l'impression que pour reconstruire nos chaînes d'approvisionnement en Europe, aux États-Unis, il y a l'IRA américain, il y a les plans de soutien européens, c'est plutôt un contributeur de croissance avec ces investissements colossaux qu'on réalise dans la transition énergétique, dans les semi-conducteurs. Est-ce que finalement l'impact va être négatif, le fait de diviser le monde en deux ?
Il y a deux choses. Il y a à court terme un effet négatif parce que d'abord, parce qu'on se sépare de la Chine, et la Chine depuis une vingtaine d'années a une contribution extrêmement forte à la croissance mondiale, et puis aujourd'hui on voit que l'activité chinoise n'est plus aussi robuste que par le passé. Donc la contribution de la Chine à la croissance mondiale va être un peu plus réduite. Mais effectivement, tous les plans qui ont été évoqués, que ce soit l'Inflation Reduction Act aux États-Unis ou l'industrie verte qui a été présentée en Conseil des ministres cette semaine, ont pour objectif de redonner des moyens aux États-Unis, à la France et à l'Europe, pour croître de façon plus autonome. Donc c'est cette situation qui est en train de bouger. Mais tous ces investissements qui vont être faits n'auront pas d'impact dans les 6 mois, 12 mois, 2 ans qui viennent. Ça va être sur une allure plus longue, sur un temps plus long. Et c'est toute la difficulté de tenir le choc sur toute cette période.
Mais alors, est-ce que ces nouveaux moyens, ils vont justement être amplifiés par le fait qu'on a aujourd'hui, on le voyait hier, des prix du gaz qui sont au plus bas depuis 2021, on a des prix du pétrole qui sont depuis un certain temps autour de $75, $78, donc assez bas. Est-ce que finalement, ça va nous permettre d'accélérer en Europe et aux États-Unis ?
Ça permet de redonner du pouvoir d'achat. C'est un phénomène extrêmement important. Le prix du gaz que vous évoquez à moins de 30 euros, c'est un prix extrêmement bas par rapport aux 135 euros qu'on a eu en moyenne pour le mégawattheure en 2022. Donc on est sur des situations qui sont très faibles. Ça va avoir une conséquence immédiate, c'est que les taux d'inflation vont continuer de baisser, probablement un peu plus vite qu'on l'imagine. Les contrats d'énergie qui vont être signés par les entreprises à partir de l'automne, parce que c'est la période où on renégocie les contrats, vont se faire à des prix beaucoup plus bas, et donc la dynamique de l'inflation va changer d'allure et au bénéfice des consommateurs qui vont regagner du pouvoir d'achat. Donc ça, c'est un facteur qui pour l'année 2024 pourrait jouer de façon beaucoup plus favorable. Ça fait référence un petit peu au contre-choc pétrolier qu'on avait eu en 1986. Ça date un petit peu, mais c'était une période qui avait été plutôt soutenue sur le plan économique.
J'ai du mal à sauter au plafond, Philippe Becher, quand vous dites ça, parce que, ok, c'est une bonne nouvelle pour la croissance, pour l'inflation qui devrait être plus basse, mais enfin, la planète brûle. Et tout ça, ça veut dire qu'on va encore continuer à consommer les hydrocarbures sans envoyer le bon signal prix aux consommateurs.
Absolument. Ça, c'est le grand, la grande problématique. On voit bien, on met en place, c'est l'annonce que j'évoquais tout à l'heure, le plan sur l'industrie verte, en disant il faut qu'on retrouve, qu'on se cale sur la trajectoire de neutralité carbone à l'horizon 2050. Et ça veut dire qu'il faut utiliser nettement moins d'énergie fossile au cours des prochaines années. Et le principal signal à envoyer, c'est un signal prix. Et effectivement, il serait souhaitable que les prix restent durablement élevés pour infléchir les comportements. Et on a vu en 2022 que des prix plutôt élevés ont modifié les comportements.
Notamment économie d'énergie, les gens font attention. Ouais.
Tout le monde, le mot de sobriété est devenu un mot économique.
J'ai peur que ce soit un feu de paille et qu'avec des prix du pétrole et du gaz qui repartent à la baisse, tout ça soit juste un souvenir.
C'est justement là, maintenant, qu'il faut infléchir les choses. Dire, on va faire le nécessaire pour que à moyen terme, la production d'énergie soit renouvelable et que finalement on sorte des énergies fossiles, mais à court terme on doit freiner cette consommation d'énergie fossile, et effectivement il y a un effet prix. Donc la difficulté pour la politique économique est d'appuyer sur ces deux leviers à des moments différents, l'un pour redonner un petit peu de souffle à la croissance, mais il ne faut pas que cette situation s'inscrive dans la durée, parce que on a un vrai objectif vert à tenir.
Lui redonner du souffle à cette croissance, justement, on l'attend assez atone cette année en France. En parallèle, on a un marché de l'emploi qui est plutôt, lui, très dynamique. On a le taux de chômage le plus bas depuis 1982 et on a un peu du mal à comprendre finalement comment les deux mécanismes fonctionnent de concert. Et puis surtout, on a des chiffres qui nous disent que, alors je cite la Banque de France, hein, fin 2024, on remontera à un chômage à plus de 8%. On a du mal à comprendre, en fait, ces liens entre croissance et chômage en ce moment.
Mais tout le monde a un petit peu de mal à comprendre, rassurez-vous. Mais on a une situation où l'activité progresse assez lentement, vous l'évoquiez, mais où les créations d'emplois sont très importantes. Et dans le même temps, les chefs d'entreprise nous disent « je voudrais encore recruter fortement ».
Je suis freiné parce que j'ai pas assez de talent.
Exactement. Et donc là, il y a une situation assez, assez complexe, effectivement. Le taux d'emploi est au plus haut historique, le taux de chômage est très faible. Donc on a toute une série de tensions sur le marché du travail. Et honnêtement, on a un petit peu de mal à comprendre la situation. Alors, il y a probablement deux choses. Un effet de rattrapage après la période compliquée qu'on a connue. Et puis, l'idée que demain, il va falloir recruter pour s'adapter à tous ces investissements qu'il va falloir faire. Et donc, on peut imaginer que les entreprises se positionnent dès maintenant pour être sûr d'avoir tous les talents, parce que la dynamique du marché du travail en Europe, d'une manière générale, n'est pas une dynamique où la population active croît très rapidement. Donc il y a une espèce de situation un peu particulière où il faut se battre sur les talents.
C'est pour ça, pardon Christophe, que finalement on a des prévisions assez sombres pour 2024, que ce soit Banque de France ou FCE, avec un chômage qui remonterait vers les 8%. C'est cette adaptation où il va falloir quitter certains emplois pour aller vers d'autres.
La Commission européenne est beaucoup moins pessimiste sur le taux de chômage. Donc voilà. Pour l'instant, ce qui est important aujourd'hui, pour moi, il y a deux choses. C'est regarder les créations d'emplois. Ça me paraît plus facile à appréhender que le taux de chômage, qui est une notion compliquée, parce qu'il y a des gens qui sortent, qui rentrent du marché du travail. Et ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que la dynamique des créations d'emplois reste plutôt robuste. Et ça, c'est un facteur qu'il faut essayer d'inscrire dans la durée, notamment avec des réformes sur les jeunes, ça a déjà eu lieu sur l'apprentissage, mais sur les plus de 55 ans aussi, pour que effectivement on ait un taux d'emploi qui augmente et qui concerne de tout le monde.
Cette robustesse de l'économie mondiale qu'on constate depuis quand même plusieurs mois, malgré tout ce qui s'est passé, tous les signes noirs, elle vous étonne, Philippe Bechter, le fait, cette capacité à rebondir, cette agilité des entreprises?
Ben, elle rebondit de façon modérée malgré tout,
oui, mais, bon,
mais effectivement elle reste robuste.
On a quand même eu des chocs extrêmement violents comme jamais, et on a une croissance positive, elle est faible, elle est positive.
Absolument, mais le choc énergétique est un choc principalement européen.
Oui.
On l'a pas vu aux États-Unis, donc la situation est différente. En Europe, ce qui est remarquable, il y a deux choses qui sont remarquables, c'est le comportement des consommateurs ou des entreprises face à l'énergie, la politique économique extrêmement volontariste, et aussi la capacité qu'on a eue en Europe de créer des unités de production d'énergie renouvelable. Hein, en 2022, la production d'électricité a été plus importante à partir d'énergie renouvelable qu'à partir d'énergie fossile. Donc ça, c'est quelque chose qui traduit une prise de conscience et un comportement nouveau des entreprises et des citoyens européens. Et ça, c'est un facteur qui fait que on n'est pas rentré dans ce qu'on avait observé dans les années 70 et qui faisait craindre un risque de récession. Le premier réflexe avait été de copier les années 70. Mais en fait, non, on a eu des comportements très différents des gouvernements, des consommateurs, des entreprises, et puis cette capacité à créer des énergies renouvelables, c'est assez remarquable.
Merci Philippe Bechter, chef économiste d'Ostrom Asset Management, d'avoir été notre invité.